Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite de l'émission Les Informés, 19h-20h d'Adil Farkan que vous pouvez retrouver dès demain. La quotidienne sportive, c'est Time Sport en ce mardi 16 novembre 2021. Et au menu de cette émission, voilà, c'est promis, c'est les Bleus qui veulent faire un sans faute, on l'espère en tout cas. L'Italie au bord de la crise, encore au barrage pour le Mondial 2022, sans oublier, allez, un petit retour sur le match nul de l'équipe d'Algérie, les Fenech d'Algérie face au Burkinabé, du côté de Blida, 2 buts partout, on reviendra longuement dans cette émission. On accueillera pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM Philippe Doucet avec son magnifique livre La Palette, raconté par son inventeur, du côté de chez nos confrères de Canal+, une certaine époque tous les vrais reconnaîtront. En tout cas, aux éditions Solar. Voilà pour ce magnifique livre sorti le 10 novembre. N'oubliez pas, le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne avec Giovanni à la réalisation et Yanis, justement aussi pour parler des Bleus, du match de ce soir, mais aussi de l'équipe nationale algérienne. Allez, c'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Bonsoir à tous, on démarre les infos sport du mardi avec Benjamin Mendy, toujours incarcéré en Angleterre et suspecté par la police britannique de 2 nouvelles affaires de viol. Pour rappel, le champion du monde 2018 fait déjà l'objet de poursuites judiciaires pour 4 autres affaires similaires depuis août dernier. Un autre champion du monde français, Nabil Fekir, cette fois, sera lui suspendu 4 matchs par la commission de discipline de l'UEFA suite à son mauvais geste survenu face au Bayer Leverkusen en Europa League. Neymar, déjà de retour à Paris, le Brésilien touché aux adducteurs en sélection, va manquer le choc contre l'Argentine cette nuit pour les éliminatoires du Mondial dans la zone âme sud. Et justement, côté argentin, c'est son coéquipier Léo Messi qui, lui, devrait faire son grand retour en tant que titulaire pour la première fois depuis le 29 novembre dernier face au LOSC en Ligue 1. Et enfin, on termine avec du tennis et la ville de Sydney qui pourrait finalement accepter l'accès aux joueurs non vaccinés lors du prochain Open d'Australie en janvier prochain sous certaines conditions. Voilà, c'est tout pour moi ce soir en vous souhaitant une bonne émission avec Bilal Nedman et toute l'équipe Time Sport.
C'est super, c'est toujours notre rédacteur Jason aux commandes de ce JT Sport. Et pour m'accompagner ce soir, on aura Vic Neige. Comment ça va, Vic Neige?
Salut Bilal, salut tout le monde, ça va très bien et toi?
Ça va très très bien. On aura aussi le coach Tollet en face de toi, Vic Neige. Sans oublier Mickaël. Comment ça va, Mickaël?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Ça va, la forme. J'ai pas pu être là la semaine dernière.
Et là, tu es là.
Là, je suis là.
Soir de match, l'équipe de France face à la Finlande. Eh oui, ça fait plaisir. On le revoit. C'est notre iranien, c'est Meshad. Il est avec nous, Meshad.
Ça va?
Et ça fait plaisir. Oui, ça va, Meshad.
Moi, j'ai pas pu venir. ça fait 6 mois. mais je suis là aujourd'hui.
Il a été bloqué, Meshad. Hein.
Très très heureux d'être là.
Eh oui, Yacine, tu vois, lui, il a été bloqué. Il a pas pu être là.
Meshad a été bloqué. Je pense qu'il a été en mission commandée du côté de Téhéran parce que.
Mais non.
Il devait relancer le football iranien.
Le football iranien est toujours là.
Bien sûr. C'est un grand football. C'est une très très grande nation de football.
On l'oublie parfois.
Parce que beaucoup de gens. Parce qu'on confond beaucoup de choses dans ce monde. Mais ça reste un vrai pays de football.
Et même en futsal. Vraiment, ils sont bons.
Ils sont très bons. C'est un grand peuple.
Très intéressant, cette nation.
Il faut juste rappeler aux gens que l'Iran, c'est la Perse.
Ne me lance pas sur la Perse.
La mère de toutes les civilisations.
C'est aussi le pays qui a réussi à mettre 8 hommes dans une équipe féminine.
En
compétition
officielle. Ça fait un peu plus rire. Ça fait un peu plus rire. Yannis,
c'est pas pourquoi. Mais c'est Avicenne et Algorithme. Franchement. Mais après, c'est toujours un plaisir de parler.
Le berceau de l'humanité des civilisations, si tu veux. Voilà, parle-nous de ça aussi sur Beurre FM, ça fait plaisir.
Et puis ça fait plaisir à beaucoup d'Iraniens qui écoutent Beurre FM.
Cyrus le Grand.
Un petit peu de ce pays et de ce football.
Et la bataille de Gaugamel remportée par Alexandre le Grand. Voilà, ça fait plaisir.
Pour Bilal, pas pour beaucoup de monde. Pour les perdants. Pour les perdants, ils vont pas être d'accord.
On s'attarde sur le premier sujet de cette émission.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Déjà qualifié pour le Mondial 2022 au Qatar grâce justement à sa victoire 8-0, carton plein face au Kazakhstan. On le rappelle, Mickaël et Viknesh. Hein. Tranquillou, l'entemente ce soir, les Bleus.
C'est un match pour bien terminer. Le travail a été fait contre le Kazakhstan. Aussi l'occasion de voir de nouvelles têtes entre guillemets, de revoir Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, de voir Moussa Diaby. Et bon, après, ça c'est un
avis. Mon cher Michael, excuse-moi de te couper, mais c'était contre le Kazakhstan qu'il fallait mettre tous ces joueurs-là, pas contre la Finlande.
Voilà, bah, la Finlande, ça peut le faire aussi.
Alors, Michael. Il y avait deux matchs internationaux, donc forcément, le match qui avait un minimum d'enjeux, tu mets les gros, et le match où tu dois.
Contre le Kazakhstan, il y avait de l'enjeu.
Bah, il y avait pas vraiment d'enjeu, mais c'était le match en gros pour se qualifier officiellement pour
soigner les statistiques des uns et des autres.
Et oui, aussi. Et aussi pour remettre en confiance certains gros cadres. Que là, contre la Finlande, maintenant le travail a été fait et donc maintenant tu peux voir certains jeunes et certains autres joueurs. Voilà, comme je le disais, j'ai rien contre lui, mais toujours assez étonné de voir Léo Dubois en équipe de France.
Très dur avec lui quand même.
Je l'ai plutôt apprécié dans ses premières sorties du côté du FC Nantes. Du côté de l'Olympique Lyonnais, j'ai quand même du mal à lui trouver quelque chose de vraiment flamboyant, alors que tu pourrais mettre un mec comme Nordi Mukiele. Donc voilà, c'est un avis tout personnel, mais je suis pas trop fan de Léon Dubois, et encore moins dans une position de piston droit comme ce soir.
Alors. Ouais, avec Nash.
Bah après,
avec Meschard aussi.
Voilà, ce soir, c'est un match où Deschamps il va faire tourner,
mais on va voir aussi l'ambiance qui règne.
Oui, l'ambiance dans le. Enfin, moi je parle, ça se passe bien dans le club. Enfin, dans la sélection, ça se passe bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais. Deschamps, il a repris les choses en main.
Alors
il a fait comme avant, durant l'Euro, etc.
Pour le moment.
Ça s'est bien passé.
Pour le moment.
Mais je pense que depuis l'Euro, il a repris les choses en main contre le Kazakhstan.
Ouais, c'est ça, on attend de voir.
À un moment donné, il faut faire une véritable analyse quand même. Tu ne joues pas le Brésil non plus en face de toi.
Pour l'instant, j'ai précisé, pour l'instant, il a pris les choses en main, ça se passe bien. Et là, il faut voir, parce que là, il y a 8-9 matchs pour préparer le mondial, dont le match de ce soir. Donc là, il faudra voir comment ça se passe. Est-ce que Deschamps, il a déjà son 11? Est-ce qu'il a déjà sa tactique, sa composition?
J'espère quand même.
C'est le cas. J'espère pour l'instant, parce qu'on a vu que depuis l'Euro.
C'est très compliqué de faire la composition d'équipe contre la Finlande ce soir.
C'est
très compliqué. J'ai l'impression que.
Ça sera pas un match où il y aura beaucoup de choses où il faudra prendre en compte. Parce que là, il fait tourner, il fait reposer certains cadres. Donc là, il faudra pas analyser ce match, même le match contre le Kazakhstan. Voilà, on a quelques idées, on sait ce qu'il veut faire. Mais après, au niveau des joueurs, au niveau de la rigueur, on verra toujours.
Mécano, avec Deschamps, c'est dans les grands matchs
et dans les compétitions qu'on voit la différence. Pour l'instant, on ne voit pas. Alors, contre les équipes, les petites équipes, on va pas faire des analyses bien profondes parce que Deschamps, alors, il s'adapte
à fort. La Finlande, c'est pas une petite équipe, attention. Hein.
Ouais. Oui, faut pas négliger.
Attention,
oui,
la même chose que tu as dit, Viknesh, tout sera retenu contre toi.
Hein. Mais non, vas-y, Viknesh.
Bien sûr, la Finlande, bien sûr, eux, ils ont encore de l'enjeu parce qu'ils peuvent se qualifier s'ils battent la France. Donc pour eux, il y a de l'enjeu, eux, ils vont tout donner. Mais la France, non, ils vont pas tout donner. Je pense que voilà, il y a bientôt la
Ligue. Ah non, donc c'est donc pas tout, c'est de la triche. Dans un match, il faut tout donner. Je pense. Après, il y a des joueurs, ils ont besoin de soigner.
Et d'accord, le coach Tolé.
Statistiques. Alors, le nombre de sélections.
Le coach Tolé, Méchane.
Mais pas avec Viknesh.
Ah ben avec Viknesh. Pourquoi le coach?
Mais là, t'es pas un match où t'es en train de gérer un quart de finale de Coupe d'Europe. C'est-à-dire que tu joues pour l'équipe de France, tu représentes les Bleus, t'es qualifié pour le Mondial. Donc les joueurs qui sont amenés à jouer ce soir ont tout intérêt à montrer un visage séduisant. Ah bah bien sûr.
Il est d'accord.
Sachant qu'il y a d'autres matchs qui vont arriver qui sont plus importants.
Tous les matchs sont importants.
Oui,
alors. Alors Meschad, on n'a pas entendu. Mais si on revient à toi, Michael, Meschad. Cette équipe de France.
L'équipe de France a mis la Finlande. Ça a suffi au nombre total de buts que voulait mettre Deschamps l'année. Et donc du coup là, hop là, on repart sur une équipe défensive avec Dubois à droite, Digne à gauche, Tchouaméni au milieu, Diaby qui joue attaquant mais qui n'est pas attaquant. Donc je sais pas quel poste il va jouer. Bref, assez bizarre toujours de je comprends pas pourquoi
il aurait dû pour ce match-là, il aurait dû rappeler Adil Rami. Il a marqué le dernier match du championnat avec 3.
Ce qui est surprenant, c'est que lorsque tu as normalement, et c'est ça que je comprends pas moi avec Didier Deschamps, c'est que quand tu as une équipe qui fonctionne, essaye-la sur plusieurs matchs, essaye-la sur des matchs à enjeux, essaye-la sur des matchs à peu petits enjeux. T'as vu qu'avec le Kazakhstan, ça faisait longtemps que l'équipe de France n'avait pas eu un visage aussi séduisant. Coman à droite, il a été extraordinaire.
Encore heureux.
Et pourquoi est-ce que tu mets Léo Dubois qui...
Alors.
Bref, j'ai du mal à comprendre cette composition. On va finir à 1-0 et puis.
La France n'a plus raté une grande compétition. C'est Diazone qui nous le disait depuis 1994. 14 tournois de suite, Yacine.
Oui, quand on voit comment s'est organisé les éliminatoires en Europe, si la France rate un tournoi, ils ont qu'à arrêter le championnat.
Ouais.
Il n'y a rien quand on voit toutes les équipes qui prennent des valises de 6, 7, on a vu le résultat cette semaine. Et à un moment donné, par contre, l'Afrique.
On va revenir à l'Afrique après.
Aussi grand que l'Afrique, il faut, pour la Coupe du Monde, et ils n'ont que 5
On en a parlé, c'est vrai. Yacine, on en a parlé, bien sûr.
Oui, à un moment donné, il faut se poser aussi les bonnes questions.
On en parlait avec Mourad dernièrement.
Pour répondre à Jason, c'est pas un exploit.
Avec Terence. Alors, Meshad.
Pourquoi Coman il joue pas? Quelqu'un peut m'expliquer? Pourquoi, par contre, Griezmann?
Peut-être Nickel, tu vas te l'expliquer.
Coman expressé. On sait qu'il est fragile de base. Donc là, il a fait un match pratiquement complet.
Fragile de base?
Ah, bien sûr, il est fragile. Coman, il se baisse tout le temps. En plus,
Quand tu l'appelles alors? C'est-à-dire que dans une compétition internationale, tu peux l'appeler une fois?
Non, mais j'ai pas dit ça.
Elle aurait pu au moins redonner une chance à Ben Arfa.
Mais on sait pas où est-ce qu'il est, Ben Arfa, je sais pas où il est.
Et c'est combien ce blague? Il est en Ligue de France.
Non, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que si joue le jeu à fond? Dans ces cas-là, mets Diaby, qui est normalement un joueur de couloir, mets-le à droite ou à gauche, enfin je sais
là,
pas.
C'est plus cohérent.
Si tu fais jouer un Ben Yedder devant, tente quelque chose.
Oui, ça, je suis d'accord.
C'est quoi franchement, la compo, je la comprends pas.
Ils vont faire un Ben Yedder, alors que l'automatisme, Benzema, Mbappé commence à prendre. Ben, si tu prépares une Coupe du Monde, c'est aujourd'hui qu'il faut donner la chance à ces joueurs. Surtout que Benzema, on le veut pas, ça, pendant 6 ans, il était absent. C'est un nouveau dans ce groupe.
Benzema, il a des consignes du Real Madrid qui fait que.
Il faut le ménager.
Exactement, il faut le ménager parce que c'est le
seul. C'est le Real Madrid qui s'immisce dans les affaires.
Mais t'as des consignes.
Ça a toujours existé.
Il y a toujours eu des compromis entre les clubs et les sélections pour certains joueurs importants qui enchaînent beaucoup.
Donc, ce qui
a pas l'air d'être le cas d'ailleurs avec Mbappé.
Donc Coman ne joue pas parce qu'il est fragile. C'est ça l'explication.
Mais on sait que c'est un joueur qui se baisse très souvent. Coman, après, c'est un joueur très fragile.
Alors on écoute Mikael.
C'est que tu pars sur un système très intéressant contre le Kazakhstan qui a bien fonctionné avec des pistons.
Ouais, Mikael, quand même, tu exagères un peu.
Extrêmement
fort. Je te trouve très très gentil avec eux.
Ça a bien marché, ça.
Mais vous, il est fou.
Quoi, avec ça,
bah, t'as pas besoin. Tu prends n'importe quelle sélection de Ligue de France, ils vont battre le Kazakhstan quand même.
Non, mais ce que je veux dire,
Léo Dubois, moi, je suis pas sûr qu'il aurait fait aussi bien que Coman.
Oui.
Mais ça, c'est sûr.
Ouais, avec Neige.
Je me trouve très dur avec Léo Dubois.
Ah, bah, il a raison avec Neige.
Mais lui, il est pas si dur contre lui.
Mikael.
Léo Dubois, c'est un bon joueur de Ligue 1. Après, au niveau international, même en Ligue des Champions, on le voit. En Europa League, il est pas super performant. C'est un bon joueur. J'ai rien contre lui. Mais il faut qu'il monte.
C'est un joueur. Il ne se blesse pas souvent.
Alors,
il n'est pas fragile.
Comment est le seul joueur de l'histoire de l'équipe de France à avoir jamais joué un match entier C'est vrai, en sélection. Surtout ça, il faut le savoir.
Comment
Il avait dit en plus en zone mixte, il fallait dire comment.
Excuse-nous.
Griezmann, 59e titularisation consécutive, record devant un certain Patrick Vieira, 45. Mikael, on revient à toi.
Impressionnant. Mais moi, si tu parles surtout au niveau du profil des joueurs, quand tu pars sur Théo Hernandez à gauche et Coman à droite, et que le match d'après tu joues avec Digne et Dubois, il va falloir se mouiller la nuque.
Je comprends qu'on soit déçu de voir Digne ou Dubois, mais en même temps, t'as un effectif, t'es obligé de les faire jouer, les mecs. Ok, on a envie de les revoir. Moi, j'ai surtout envie de revoir cette animation-là contre une équipe beaucoup plus solide aussi. Kazakhstan, heureusement. Alors, c'est très bien ce qu'ils ont fait contre le Kazakhstan. Ils ont fait le match quasiment parfait. Moi, j'ai envie de les voir contre l'Italie, l'Allemagne. Est-ce qu'il sera capable de remettre la même animation? Maintenant, je dis pas qu'il est dans l'obligation, mais c'est normal qu'il fasse tourner, qu'il donne la chance à Digne, à Dubois, de nouveau, même si
Et pour rappeler aussi à Adil Rami,
Ouais, mais Claude.
Si je peux me permettre.
On te permet.
On a déploré à l'Euro le manque d'automatisme de l'équipe de France à quasiment tous les postes. L'Italie, depuis que Mancini est là, c'est la même.
Giovanni.
Depuis que Mancini a pris la tête
de l'Europe.
On va en parler de l'Italie, t'inquiète pas.
Mais ils sont champions.
On n'entend plus parler, Fala.
L'Espagne a gardé la même équipe titulaire avec les 11 mêmes joueurs, que ce soit contre le Kazakhstan ou contre le Brésil. C'était la même équipe. L'Allemagne, pendant 10 ans, ils ont joué avec la même équipe.
On a peut-être un effectif plus riche que ces sélections-là, à mon avis aussi. On a peut-être plus d'arguments, même si.
Plus d'arguments que l'Espagne de la dernière décennie.
Tu parles d'Espagne. L'Espagne a joué avec quasiment le même 11. T'avais un groupe relativement jeune, un groupe en reconstruction. Digne et Dubois, même s'ils nous font pas rêver, ça reste quand même des joueurs solides qui ont l'habitude de jouer la Coupe
d'Europe. Digne, il a joué quand même.
Digne, il est pour l'équipe de France. Il est bon, Digne.
Non, mais tu faut pas me le comparer à Théo Hernandez qui, depuis qu'il est là,
Hernandez aussi n'est pas faux zigoulam, hein, non plus, hein.
On aura notre invité aussi.
En plus, ils nous ont
Yannis,
hein, parce que sa femme est algérienne, il aurait pu au moins jouer pour l'Algérie.
Mais non.
À ce poste-là, on a besoin. Ben oui. On a besoin de.
Et tu penses qu'il sera accueilli bras ouverts là-bas en Algérie?
Ah,
ben.
Je sais pas. Avec tous les candidats à ce poste,
ça se trouve, on est mauvaise langue et que l'animation offensive et défensive sera extraordinaire contre la Finlande. Et donc, c'est
comme ça. Ah, c'est possible aussi. Hein.
On aura qu'à fermer notre bouche. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est.
Arrête un peu, toi aussi. Mais va pas dans le même sens que lui.
Arrête.
C'est possible.
Non, Méchal.
La question. Exactement. Est-ce qu'il faut faire jouer Théo Hernandez
ou Lucadine?
Ou Lucadine.
Voilà.
C'est vrai. D'accord avec ça.
Dans deux heures peut-être.
Le manque de continuité, je le comprends pas. Et encore une fois, c'est des choix d'hommes. Pourquoi est-ce que tu ménages Benzema mais tu ménages pas Kylian Mbappé? Ça veut dire que Kylian Mbappé
n'a pas le même âge.
Ils ont pas le même âge.
Avant la pause, c'est que même si la France est qualifiée, la Finlande joue sa qualification. Donc justement, ce qui est intéressant, c'est que comment vont réagir ces joueurs?
Comment
dans un match,
c'est pas le joueur.
Dans un match, la Finlande va jouer son va-tout et je pense que ça va être un match difficile pour les Bleus ce soir.
Allez, merci le coach Tolé, merci à toute l'équipe de Time Sport. On va s'arrêter là, première pause. Okay, qui doit s'imposer avec vous, chers auditrices et chers auditeurs de Beur FM. On reviendra rapidement avec l'invité de ce soir qui n'est autre que Philippe Doucet.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beur FM.
Et de retour sur l'antenne de Beur FM, toujours en compagnie de Mécha, du coach Tolé, Yacine, Viknesh et sans oublier notre Michael National. Allez, l'interview de ce soir avec notre invité.
Time Sport. The Special One. The Special
One. La palette à Doudouce. Et oui, un grand monsieur qui est avec nous ce soir sur l'antenne de Beur FM pour la première fois dans cette émission, cette quotidienne qui est Time Sport, 20h, 21h, chaque soir. Et il est avec nous. Bonsoir Philippe, comment allez-vous?
Bonsoir, très bien.
C'est un plaisir de vous avoir raconté par son inventeur cette
fois.
La palette justement qui a émerveillé. Et oui, les 20 ans de l'analyse vidéo dans le football, si je peux me permettre. Il y a tant de générations qui ont connu vos fameuses chroniques, vos lancements aussi sur les grandes émissions de nos confrères de chez Canal+. Et oui, la grande épopée du football, si je peux me permettre, européen, avec on l'oubliera jamais, Monsieur Thierry Gilardi, ou encore Hervé Matou, et je peux en citer d'autres, hein, des grands monsieur, que ce soit, Michel Denisot, ou encore, je l'ai sous le bout de la langue, il était passé aussi par nos confrères de beIN Sport, à l'époque Charles Biétry, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut bien raconter ce data football, si je peux le dire de cette façon-là. En tout cas, vous êtes la personne qui le représentait assez bien aujourd'hui. Et d'où ce livre que vous devez peut-être à tous ces amoureux du football. Non, Philippe?
Oui, en tout cas, c'est un éditeur, Jean-Philippe Bouchard, qui m'a convaincu que ça pouvait être intéressant. J'avais un doute parce que ça me paraissait lointain, ça me paraissait un peu passé pour moi parce que je fais plus trop ce genre de choses.
Ouais.
Et puis je me disais pourquoi revenir là-dessus, tout ça a beaucoup changé depuis, etc. Et puis effectivement, en faisant le livre d'abord, je pense qu'il y a pas mal de jolies histoires, d'anecdotes à raconter, parce qu'il y a quand même des personnalités. Vous n'avez pas cité Michel Platini, mais
oui, Michel Platini le préface aussi.
Et évidemment,
qui est fait par lui.
Il a signé la préface.
C'est vrai.
Surtout, il est un élément indissociable de l'existence de cette palette.
C'est par lui, la préface.
Cette première année de la palette. Et puis surtout, c'était l'occasion, une fois qu'on a égrené tous ces souvenirs et raconté tout ce qui s'est qu'on a développé, pourquoi, comment, etc., dans ces grandes années de création à Canal. Une fois qu'on a fait ça, je me suis aperçu qu'il y avait encore une bonne centaine de pages à écrire sur. Est-ce que c'était devenu des enfants de la planète, et les enfants, ils sont très nombreux, alors ils sont nombreux sur les plateaux de télé, sur les radios, sur la presse écrite, etc., bien sûr, mais ils sont surtout nombreux dans les clubs. Aujourd'hui, c'est incroyable, la technologie a envahi complètement le football, et des tas de clubs travaillent, je ne vais pas dire uniquement, mais pas loin, et quasi uniquement sur la vidéo, sur les data, tout le recrutement se fait de cette manière-là, etc. C'est une évolution incroyable du football, et je trouvais que c'était intéressant de le décrire. J'approuve pas tout, je suis un peu étonné par la tournure que ça a pris. Ça m'a largement débordé, si vous voulez.
C'est vrai.
En tout cas, je pense que c'était effectivement, mon éditeur avait raison, une belle histoire, cela avait raison, une belle histoire entre le début où j'étais en avance sur toute cette époque, et puis aujourd'hui où tout cela m'a largement dépassé.
Bien sûr, et vous le racontez si bien avec des témoignages, on le rappelle, avec la préface de Michel Platini, entre autres Arsène Wenger, Didier Deschamps ou aussi Zinedine Zidane. Une première réaction, M. Doucet, avec notre consultant Méchad.
Bonsoir Monsieur Doucet, j'avais une petite question à vous poser avant de rentrer peut-être sur l'aspect technique de l'analyse et de ce qu'a permis les palettes et le digital sur les analyses des matchs de football. Comment ça s'est fait à l'époque sur Canal quand on vous a demandé de travailler sur la palette? Comment ça a été perçu? Est-ce que c'est vous qui avez lancé cette idée? Est-ce qu'on vous l'a imposé? Et surtout, oui, comment ça a été perçu? Est-ce qu'on n'était pas sur un aspect peut-être qui avait pu être perçu comme certains comme l'aspect intellectuel du football, ou en tout cas le détail trop poussé de l'analyse d'un match de football? Voilà, je voulais avoir votre retour par rapport à cela.
Alors d'abord, pour être tout à fait honnête, la palette a existé avant moi. La palette, c'est l'engin lui-même, la palette graphique. C'est ni celle du boucher, ni pour faire des travaux chez soi. Non, c'est celle du boucher, c'est celle de la palette graphique, pardon, qui existait et que Jean Bietri avait déjà utilisé à Canal. Donc, je n'ai pas été le premier en ce domaine-là. Moi, ce que j'en ai fait, c'est vraiment un outil direct, en fait. C'était d'en faire un outil où on pouvait réagir 10 minutes après un but, et puis le montrer de toute autre manière, et puis avec des détails d'analyse. Mais je reviens sur ce que vous dites. Bon, c'est moi, qui proposais cette idée, parce que c'était une période en fait très créative à Canal. Du fait de dire, on ouvre la porte en disant, voilà, on a récupéré les droits de la Ligue des Champions, proposez-moi des bonnes idées et on le fera. Et on le fera. Et quand j'ai proposé ça, il a marché. Alors j'ai fait un petit mensonge au passage, parce que Michel m'a posé la question qui tue. C'est-à-dire, tout d'un coup, il m'a dit, ouais, le service à la 40e, t'es capable de le faire à la mi-temps. Et évidemment, j'ai pris mon meilleur sourire, mon meilleur profil. J'ai affirmé que, bien évidemment, alors que très honnêtement, j'en avais aucune idée. Je ne savais pas du tout, je n'avais pas encore utilisé cet outil, donc je ne savais absolument pas comment m'en servir. Donc je ne savais pas exactement c'est plus une idée, un concept, que quelque chose de maturer, en tout cas sur le plan technique. Par contre, sur le plan éditorial, oui, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et surtout, vous avez dit un truc intéressant, c'est dans la question, c'est-à-dire, est-ce que c'était un truc d'ultra spécialiste? Ben non, c'était pas du tout l'idée, au contraire, moi je voulais en faire un outil pédagogique, vraiment pédagogique, parler foot, mais simplement, et pour ça, Michel Platini était génial, parce que quand bien même, parfois, je pouvais un peu partir sur des voies un petit peu intellectualisantes, vous inquiétez pas, Michel, il me ramenait tout de suite à la pure réalité, et très très vite. Je me rappelle une fois où je m'exprimais à montrer qu'il y avait des triangles dans tous les coins du terrain, et formidable jeu collectif, etc. Et immédiatement, Michel m'a coupé en disant, oui, vous savez, quand il y a trois joueurs, ça fait toujours un triangle.
Tout simplement.
C'est un peu ça, la notion infernale autour de la palette.
Merci beaucoup. Oui, Yacine avec Viknesh et Mickaël. On vous écoute, messieurs.
Moi, j'ai une petite question à vous poser. Là, vous avez parlé qu'au départ, ça devait être un outil pédagogique. Aujourd'hui, c'est devenu avec énormément de chiffres, des statistiques, en voiture, en voilà, dans le foot, avec les matchs de foot, ou même sur certains joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil pédagogique? Qu'est-ce qu'il est devenu pour vous?
Vous avez raison. Sur le plan média, je trouve que l'évolution, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution après 2007, parce que la palette, je l'ai démarré en 99 avec un outil qui était quand même déjà assez obsolète. qui a duré jusqu'en 2007, puis après on est passé à la Rolls avec des trucs 3D très spectaculaires, etc. Et du coup, peut-être qu'on a perdu un petit peu du côté original au départ, où on construisait vraiment la palette et de manière très simple. Après, on est parti un peu dans des choses peut-être un peu beaucoup plus belles, certes, mais peut-être moins pédagogique, effectivement. Et quant à l'évolution actuelle, ben, je crois qu'au niveau média, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai eu des enfants un peu trop zélés, qui ont été peut-être un peu trop loin, effectivement. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de chiffres, et pas toujours les meilleurs, c'est-à-dire pas toujours des choses vraiment intéressantes et rationnelles. Beaucoup de records à deux balles, beaucoup de on en met un peu plein la bouche de records, de choses de soi-disant spectaculaires et qui n'ont pas un contenu forcément très intéressant. Après, il y a aussi des gens qui l'utilisent bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces outils-là ont été complètement repris en main, c'est ce que je disais tout à l'heure, repris en main par les clubs. Et là, le vrai développement d'aujourd'hui, autant moi j'étais en avant, côté canal, côté média, donc on était en avance à l'époque sur les clubs, et aujourd'hui je pense que c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les clubs qui ont développé des tas d'outils peut-être exagérés également, mais en tout cas sûrement plus pertinents que ce qu'on fait en média, qui reste intéressant et parfois un peu abusif, effectivement. Je vous rejoins là-dessus.
Yacine, on poursuit avant de le laisser filer. Philippe Bonsoir, notre invité ce soir.
Je vous ai écouté récemment sur Canal où concernant la CAN 2021 au Cameroun, vous étiez affirmatif que la CAN aura lieu au Cameroun. Quelles sont les raisons qui vous poussent à être aussi affirmatif?
Ben, je viens de faire le tour du Cameroun lors d'une visite. On a été invité pour faire le tour des stades, des hôpitaux, des hôtels, des terrains d'entraînement. On a fait un tour quand même très très important, très imposant pendant 10 jours. Et très honnêtement, évidemment que le Cameroun est en état d'organiser la CAN. Après, sauf si un tremblement de terre ou quelque chose complètement extérieur au football, je vois absolument pas pourquoi la CAN ne serait pas au Cameroun, et je ne vois pas pourquoi vous en doutez.
On vous pose parce qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que le Cameroun aujourd'hui, à quelques mois, un mois et demi de la phase finale de la CAN, n'est pas encore prêt pour accueillir justement cette compétition.
Ben, il y a des terrains d'entraînement, il y a des stades qui sont tous finis, si ce n'est Olympe qui est en finition, le stade le plus important, effectivement, qui est un symbole important, je le concède, mais qui est en phase de finition. Les principaux aménagements, c'est des aménagements extérieurs au stade. Alors c'est important pour que le public puisse accéder, etc., mais c'est quelque chose qui se fait dans des délais relativement raisonnables. Le constructeur va assurer que fin novembre, début décembre, tous les accès sont terminés, c'est des enrobés autour du stade, c'est pas ce qui est le plus définitif et le plus long. Et pour le reste, il y a plutôt des bonnes pelouses, il y a des équipements qui, je vois vraiment pas où se niche cette idée persistante que le Cameroun ne sera pas prêt.
Ouais. Alors normalement un pays qui organise un événement tel que la CAN, ouais, au jour d'aujourd'hui, normalement ça fait déjà des mois qu'ils sont fin prêts. Il y a pas de, on peut pas, on
vous
peut
avez,
pas.
Vous avez souvent vu des CAN où tout le monde était fin prêt en avance? Je peux vous dire que
la CAN, moi je me rappelle très bien la CAN en 90 organisée en Algérie, des mois à l'avance, tout était fin prêt.
Oui, bien sûr, mais ouais, je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait deux stades. Il y avait 8 équipes qui faisaient la CAN. C'était beaucoup plus simple.
Ouais.
On pouvait même faire,
c'était pas la même chose.
On pouvait faire le CAN dans beaucoup de pays et on y arrivait, parce qu'avec deux stades, on y arrivait. Et puis les normes n'étaient pas tous les mêmes.
Ouais.
Mais je peux vous assurer, en tout cas, que comparé à toutes les dernières CAN qu'on a eues, sauf l'Égypte, évidemment, qui elle a pu relever le défi en de l'organisation très rapidement, parce que les stades étaient là. Les aménagements anticipés sont là. Il y avait, c'était pas trop complexe. Mais en dehors de cela, je peux vous assurer que le Cameroun est beaucoup plus avancé que bien des pays qui ont organisé la CAN.
Mais ça, c'est une bonne chose.
Ça ne doit pas être le critère.
Ouais.
C'est de plus en plus
évident. C'est un pays de football aussi. C'est un grand pays d'Afrique et c'est un pays de football.
Pardon ?
C'est un grand pays d'Afrique et c'est un immense pays d'Afrique et c'est un grand pays de football, le Cameroun.
Absolument, qui était anormalement en retard sur le plan des installations et qui va donc bénéficier de cette CAN pour être maintenant très en avance sur le reste du continent. Et
alors,
c'est formidable que ce soit dans un pays où la ferveur populaire pour le foot va être formidable.
Bien sûr, et on l'espère de tout cœur. Vraiment, monsieur Doucet, peut-être une dernière réaction avec toi, Michael. Et Philippe Doucet, notre invité ce soir.
Pour parler plus précisément de votre livre, j'aimerais savoir si vous avez un petit peu pour le vanter les deux ou trois raisons qui nous pousseraient à le lire,
ouais,
tout simplement.
Se le procurer, l'acheter.
Les raisons, elles sont relativement simples. Pour lire ce livre, il faut d'abord aimer le foot. Ça, je pense que ça nous rassemble tous ici, j'imagine.
Ah.
Oui, quand même. Il faut aimer le foot. Ensuite, il faut quand même aimer Canal et avoir en tête toute cette histoire, parce que c'est vrai que cette création de la palette, elle s'est inscrite vraiment dans une histoire de créativité autour de transmission de foot de Canal. Et puis, bien sûr, il faut aimer aussi tout ce qui est technologie, tout ce qui est innovation, parce que ça a été au cœur, évidemment, de la démarche, mais en rappelant toujours que j'ai toujours voulu que ces outils ne soient, enfin, que justement, que ce ne soit que des outils. Et non pas remplacer tout ce qui serait le sel du football, qui est, évidemment, en premier lieu, l'émotion, le suspense, tout ce qui nous anime quand on regarde un match de foot. Après, ces explications-là, elles viennent après. C'est évidemment des outils de compréhension du foot. Moi, je suis un grand passionné du jeu, et c'est ce que ressort d'ailleurs dans ce livre. Moi, je suis un passionné de jeu depuis toujours. Et le jeu, l'émotion passe avant tout.
Bien sûr.
Mais il est vrai que quand on est passionné de jeu, eh ben, la palette, mine de rien, les data, etc., ben, ce sont des outils qui permettent d'encore mieux comprendre. Parfois, on a quand même des doutes, et heureusement qu'on a des doutes, de permettre encore mieux de comprendre le foot, et en ce sens-là, vous retrouverez tout ça dans le bouquin également.
Merci Philippe Doucet d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. On le rappelle, la palette racontée par son inventeur aux éditions Solar. Un grand merci pour cette disponibilité et d'avoir répondu à nos questions, Philippe.
Merci, c'était très sympa.
Vraiment, merci à vous.
Bonne soirée.
La suite des programmes, de cette émission, Tam Sport, on parlera de la Squadra Azzurra, sans oublier la sélection algérienne. Ah oui, sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Comme promis, de retour sur l'antenne de Beurre FM en live en ce mardi soir. Eh oui, soir de match, l'équipe de France qui rencontre la Finlande pour les éliminatoires de la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar. Eh oui, ce mondial 2022, et on l'espère, le sacre. Où est-ce ? Mais pourquoi pas du Maroc, la Tunisie ou encore une équipe africaine, hein, le Cameroun, le Congo, l'algérie, oui.
Bilal, petite question, quand est-ce que nous on aura une palette pour analyser le match?
On va essayer justement de se la procurer.
À l'inventeur. Avant de parler du sujet.
Giovanni va nous la procurer, la palette, ne t'inquiète pas. Allez, nous on va prendre le chemin de l'Italie.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Essayez de réagir avec Viknesh au 01 53 48 3000. L'Italie en match de barrage, Viknesh.
Bah ouais, l'Italie en match de barrage, parce qu'ils ont mal géré les deux derniers matchs. Depuis l'Euro, c'est pas top l'Italie. Ils ont tout donné durant la compétition. Bien sûr qu'ils ont tout donné pendant la compétition. Ils ont donné le maximum. On l'a vu, les joueurs, ils étaient au maximum de ce qu'ils pouvaient faire.
Apparemment, ils sont pas vaccinés.
Ah, ça, c'est autre chose.
C'est pour ça qu'ils marchent pas trop fort.
Ah, c'est possible, je sais pas. Après, il y a beaucoup de raisons. Mais après, voilà, comme ils ont champion, ils ont gagné l'Euro, je pense que, ils sont un peu en méforme, on va dire ça comme ça. Mais on a vu Jorginho qui loupe deux pénaltys, alors que s'il en réussissait juste un seul, ben là, ils étaient en Coupe du Monde. Donc ça joue à des détails. Mais au niveau du contenu des matchs, l'Italie, c'est à rien, il n'y a plus rien, c'est compliqué. Wow. Il n'y a plus rien, moi.
On regarde les mêmes matchs ou?
Bah, je suis désolé.
Tu veux dire que je ne regarde pas les matchs d'Italie?
Non, si, je pose la question
à mes chats.
Si, justement, j'ai vu l'Italie, justement.
Qu'est-ce que je regardais les.
C'est un vrai fan de la Squadra Azzurra.
Hein. Je regardais les.
Surtout avec Donnarumma et Verratti.
Et déjà, le même maillot.
Bah, bien sûr, non, quand même pas, faut pas viser non plus.
Parce que lui, il voit bien Jorginho gagner le ballon d'or.
Non, j'ai pas dit qu'il allait gagner le ballon d'or.
On te voit arriver.
Moi, je vois dans top 3, top 5, ça serait bien. Mais sinon, après, pour revenir sur l'Italie, oui, après, l'Italie, depuis l'Euro, pour moi, je les vois pas en grande forme. C'est peut-être le fait d'avoir gagné le titre. Ils sont peut-être. Il faut un peu de temps pour qu'ils reviennent sur terre, qu'ils redescendent sur terre. Mais c'est compliqué.
Ils sont pas encore revenus. Et pourtant, le cosmonaute français là, il est revenu sur terre.
Hein. Ah Pesquet, ouais. Bah, peut-être qu'il les a laissés là-bas, les Italiens.
Ah ouais, c'est un grand problème.
Ils les a oubliés. Donc je pense que c'est ça qui est compliqué. Mais voilà, encore une fois, ils vont passer peut-être au barrage ou peut-être pas. Hein. Après, le sélectionneur Mancini, lui, il a dit qu'il se voyait en.
Un autre mondial sur l'Italie, c'est une catastrophe. Hein.
Bah, ça fait beaucoup.
C'est une vraie catastrophe.
Ça serait énorme pour eux. Donc, lui, le sélectionneur, il a dit que lui, il se voyait au Qatar, peut-être même gagner la compétition.
Bon, ils s'en foutent un peu. Si la France est qualifiée et l'Italie n'est pas qualifiée, il y a un problème.
Après, il faut pas oublier que l'Italie, déjà sur l'Euro, mais sur le reste, sur ce qu'ils font actuellement, surfe sur un collectif qui était quand même bien élevé, mais sans individualité, en tout cas qui sort du lot. La meilleure individualité, c'était Jorginho qui était un milieu défensif. C'est pour dire quand même
toute la grandeur.
Tu vas pas critiquer un milieu défensif non plus.
Barella, Verratti. Bon, Verratti qui joue quand même 50% de ses matchs dans
le Chiesa est monstrueux.
Mais quand Chiesa joue l'Euro et Chiesa aujourd'hui, c'est pas une star du football mondial. Faut arrêter. C'est un bon joueur, mais c'est pas une star du football mondial. Ce que je veux dire, c'est que dans cette équipe, il y a pas de grande star.
Et leur manque Balotelli.
Et voilà, en fait.
Il fallait rappeler Balotelli.
Il leur manque un numéro 9. Ils n'ont pas un numéro 9 de qualité.
Il a eu du mal à confirmer en dehors du championnat
italien. Ouais, Michael. T'as Immobile, qui est un vrai buteur, mais qui a du mal à confirmer
en dehors de la Lazio, comme il a raté du côté de la Bundesliga et où c'est un peu balbutiant avec la sélection italienne. Donc c'est vrai qu'il manque vraiment dans les moments où le collectif ne ronronne un petit peu et tout. C'est vrai que ça manque d'un gros joueur qui peut faire la différence. Et on l'a moins du côté de l'Italie parce que le vrai joueur en fait le plus régulier en attaque du côté de l'Italie, ça reste Insigne. Qui reste un joueur un bon
irrégulier
joueur.
En plus de
ouais, exactement
ouais, c'est faux le signaler ouais. L'Italie c'est reste ça, l'équipe qui a le allez je crois son 38e ou 39e match sans défaite.
Ils ont enchaîné beaucoup de nuls.
Mais après, ils restent quand même invaincus.
Ils ont battu le record.
Et je pense qu'ils ont le record du monde de la sélection invaincue. Mais certes, tout à l'heure, bon, je vais taquiner un peu Vignesh, mais il n'a pas tort sur le front, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils digèrent mal, qu'ils ont très mal digéré leur victoire pendant l'Euro. Hein.
Franchement, c'est des détails quand tu regardes les derniers matchs. Les derniers matchs après l'Euro, le collectif, pour le coup, il est toujours aussi fort. C'est juste que quand devant,
qui rate
4 ou 5 occasions par match. Bah oui,
avec Nash, il est pas d'accord avec Nash. Avant de terminer, parler de l'Algérie.
Moi, je vois pas autant d'occasions.
Regarde le dernier match. Je parle pas de.
C'est pas faux avec Nash.
Mais les derniers matchs de Immobile, il a raté des occasions qu'il est à ce niveau-là, qu'il n'est pas censé rater.
Oui, mais justement.
Comme ça a été dit, c'est que quand tu remportes une compétition aussi importante,
une grande compétition
difficile comme l'Euro, l'Italie clairement on les attendait pas.
Ouais, au bord de la crise, là, on
aussi,
dirait
aussi rapidement à ce niveau-là. Mais Chad le dit, c'est que t'as un gros collectif qui t'a permis de faire la différence, ce qui se fait en général dans les compétitions one shot où t'as 6 matchs. Et c'est vrai que lorsque t'es moins bien, quand tu regardes les grandes nations, tu as toujours un, deux joueurs capables de faire la différence et tu t'imposes 1-0 ou 2-1 sans être extraordinaire. Mais c'est vrai que quand tu regardes les joueurs offensifs en Italie, on a vanté plutôt les milieux de terrain défensifs, mais les joueurs offensifs sont pas au niveau des autres grands joueurs que tu retrouves dans les autres sélections. Donc c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a moins de talent quand même que les sélections italiennes que l'on a connues il y a une quinzaine d'années. Et là tu le ressens.
Et à titre de comparaison, t'as alors même si c'est pas le même jeu, mais t'as l'Espagne qui est à peu près dans le même schéma, c'est-à-dire qu'ils ont un collectif qui est très fort, mais ils ont pas de vrai numéro 9, et c'est ce qui fait qu'ils ont du mal à franchir le palier là sur les dernières années.
L'Espagne, ils ont fini tête de leur groupe. Hein.
Ils ont fait une tête de leur groupe, mais sans attaquant. Imagine s'ils avaient un David Villa ou un Fernando Torres.
Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas d'attaquant en Espagne.
C'est pareil.
Oui, mais ça fait. Depuis qu'ils n'ont pas de numéro 9, ils galèrent.
Nabil approuve la réaction du coach Etolé. Voilà, ça c'était pour la petite réaction, le coach Etolé. Allez, place à la dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, le mode pressing avec l'Algérie, justement. 2-2 face au Burkinabé, le Burkina Faso, Michael et Yacine. On a vu un peu un match assez poussif, selon certains. Si on peut, ouais.
Exactement. Alors, un match où on attendait un gros choc et ça a été un match finalement dans le jeu pas au niveau. L'Algérie avait besoin d'un match nul pour se qualifier. Ça a été chose faite. Ils ont réussi, ils menaient au score à un quart d'heure du terme. Ils sont finalement fait reprendre, mais voilà, on va au moins dire que le minimum a été assuré par les hommes de Jamel Belmadi.
Ouais, 2-0 pour le moment avec le Maroc, hein, en ce moment.
Faut pas sous-estimer le Burkina, avec
joueurs blessés, hein.
Parce qu'on a beaucoup parlé. Alors, c'est vrai que l'Algérie a cette invincibilité, etc. C'est
pour le moment
et tout, il y a pas de problème. Mais le Burkina, dont on ne parle absolument pas, a tenu tête jusqu'au bout à l'Algérie. Alors,
incroyable.
Certes, on a peut-être pas eu un.
L'Algérie a fait fort chez elle.
Grande nation du football, le Burkina Faso. Attention. Ouais.
Non, mais ils ont eu quand même la chance de.
C'est une nation qui évolue, qui a fait des mois que ça n'a pas vu.
Elle évolue bien.
Mais si le Burkina s'impose.
Ouais. Ils sont qualifiés.
Mais ils sont qualifiés. Non, mais c'est ça. Jamais on en a parlé.
Ouais.
Donc, jusqu'au bout, elle a quand même tremblé. Des sélections dont on ne parle pas, comme le Burkina, comme d'autres, progressent également et que, on sait que c'est difficile aussi de s'imposer sur les terrains africains, même si c'est en Algérie.
Ouais.
Mais, va falloir que.
C'est important ce qu'il dit.
L'Algérie. Une grosse sélection
selon le coach Etolé.
Il faut avoir le match.
Mais c'est important ce qu'il dit en disant qu'il y a une vraie évolution tactique chez les équipes africaines.
Les équipes moyennes
qui font qu'aujourd'hui, sur des matchs comme ça,
ça
on
n'a pas d'aujourd'hui.
Il en avait parlé, Yacine, déjà.
C'est vrai,
ça
pas d'aujourd'hui. Non,
mais avec toi, le coach.
La plupart des joueurs
avec le coach,
évoluent dans des grands championnats européens.
Ouais.
Donc, automatiquement, attention, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a une évolution qui a été. D'ailleurs, pendant toutes les années où ça a été entraîné par des sélectionneurs étrangers, on n'a pas vu cette rigueur tactique.
Exactement.
Et aujourd'hui, l'entraîneur de l'Algérie est un Algérien, l'entraîneur du Burkina Faso est un Burkinabé, et là on a vu un match tactiquement de très haut niveau, parce qu'il faut prendre en considération aussi les conditions météorologiques, où il y avait beaucoup de pluie sur la nouvelle pelouse du stade de Tchaker. Le match a tenu toutes ses promesses sur le plan du suspense. On aura au moins vécu le match jusqu'au bout. Peut-être Belmadi a fait quelques mauvais choix tactiques. D'ailleurs, il s'est corrigé au bout de la première mi-temps où il a, au départ, joué avec deux pointes. J'ai pas compris pourquoi. Après, il a fait sortir Bounja, il a fait rentrer Fegouli qui a un peu stabilisé le milieu de terrain. Et le Burkina n'était pas mauvais. Ils ont tenu tête la dragée haute à l'équipe algérienne. Donc,
est-ce que tu peux faire tes tops et tes flops sur ce match côté algérien?
Les flops, je pense Mahrez, c'est vraiment un flop. Il a même en inscrivant le premier but, c'était un cadeau, un caviar.
Est-ce qu'il pas l'image de son début de saison?
Du tout. Mais il faut savoir que cette période de l'année, énormément de joueurs africains qui jouent en Europe arrive un peu à saturation, et on le voit sur beaucoup de joueurs algériens. Mais après, il y a la CAN qui arrive, attention, il y a beaucoup de calculs, parce qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire gérer l'intensité d'un match qui est quand même coup près, hein, si l'Algérie prend un troisième but, elle est éliminée,
et ça peut
arriver. La pression, elle était beaucoup plus du côté algérien, alors qu'ils étaient premiers au classement avec deux points d'avance. Mais il y a toujours cette épée de Damoclès sur la tête. Tu te dis, peut-être que alors qu'ils ont mené au score par deux fois, ils ont raté. Ils auraient pu faire le break par Mahrez, où pour une fois, il a essayé d'être collectif. Et il a fait à ce poste-là on n'a pas besoin d'être. Quand t'as une occasion, il faut la mettre. Il faut être comme Ronaldo, comme Messi, comme ces grands joueurs qui comme Ibrahimovic. Quand tu as une occasion, j'essaye de la mettre au lieu de la donner à quelqu'un d'autre. C'est ça. Moi, j'ai besoin d'un tueur dans une surface de réparation. Bounja n'a pas été à la hauteur. Je pense que ça fait un bon moment qu'il n'arrive pas à enchaîner les les performances. Heureusement que Slimani, d'ailleurs, on l'a vu, Slimani, à la 89e minute, revenir et récupérer un ballon dans sa surface de réparation. Et pour vous dire un petit peu l'envie des joueurs de cette trempe. D'ailleurs, l'Algérie lui doit énormément sur cette phase de qualification. Mais Belmadi, je pense que ce soit avec Serge Romano et tous ses adjoints, ils vont se poser énormément de questions, parce que lui, dans sa tête, qui dit, c'est-à-dire il faut déjà, il reste la qualification, et si tu arrives à Doha, ce n'est pas pour faire de la figuration. Ah oui. Et je pense, la copie qu'on a rendue aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses à revoir, mais je reste optimiste, parce qu'il y a un vivier de joueurs algériens en Europe. Je pense que ça, d'ici quelques mois, ça va arriver. On aura l'embarras du choix.
Oui, mais quand c'est tolé. Michael et Viknesh.
Tu suis bien le foot africain. Est-ce qu'il y aura des têtes de série lors de ces barrages?
Bien sûr.
Qui auront lieu au mois de mars, quand même.
Ouais.
On se retrouvera quand même dans une période où tu auras les matchs de Coupe d'Europe.
Ouais. Les matchs de Coupe d'Europe, tu
vois. Assez décisif.
Tu as des joueurs qui vont être sollicités.
Un mois après la fin de la CAN.
C'est mal placé.
Il peut se passer pas mal de choses en fait d'ici là.
Alors, Michael. Ah,
énormément.
Parce que tu as la Coupe du Monde qui a lieu
au mois de décembre. Cette année, les joueurs n'ont pas de repos.
Et il peut y avoir des surprises. Attention, c'est pas fait. J'ai regardé les qualifiés. On l'a vu tout à l'heure à Cassine, les qualifiés pour les barrages. T'as quasiment tous les gros.
Alors quand on voit
c'est le premier de chaque groupe. Il y a un groupe où on a ce soir notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc un des deux n'ira pas au mondial.
Deux grandes nations africaines qui peuvent vraiment représenter le football africain. Et tu les mets dans des groupes où ils vont disparaître. Si tu perds le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Afrique perd quand même une grande nation.
Mais pourquoi est-ce qu'elles galèrent ces équipes, ces grandes équipes là du football? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, que t'as les qualifications pour
le Cameroun, c'est compliqué? Mais Guinness, il dit non, elles galèrent pas ces grandes équipes.
En Afrique, c'est compliqué.
Excuse-moi, le Cameroun, ça fait très longtemps qu'on les a pas vus.
Il y a de la concurrence.
Oui, mais alors c'est qui la concurrence?
Non mais Michel, on y revient d'ailleurs. Je pense que t'as l'émergence de ces, c'est du top 5-10 nations africaines où ça travaille bien.
Oui, ça travaille.
Compte que je pense qu'à un moment le top 5 africain a minimisé aussi ses sélections qui sont en train de revenir fort. On le voit même un petit peu en Europe, on l'a vu lors des différents euros.
Moi personnellement, mes apports.
Et c'est vrai que ces nations ne dominent plus autant le continent comme c'était le cas avant.
Après, il y a des fédérations qui ont un peu plus d'argent que d'autres.
C'est sûr.
La plupart, beaucoup de fédérations africaines souffrent de ce problème de primes, par exemple. En 2021, encore des.
Ça s'annonce assez dur quand même, ces qualifications avec Nash.
Bien sûr.
Pour l'Algérie, il faut faire attention.
L'Algérie, après, pour parler de l'Afrique plus généralement, on a les 10 premiers qui sont qualifiés, ou qui vont se qualifier. En tout cas.
Non, l'Afrique, c'est 5 nations.
Je te parle des groupes.
Les 10 premiers qui vont
s'affronter en
barrage.
Après, quand on voit plus ou moins qui sera dans les 10, on voit qu'il y a des grosses nations et on peut voir même que le Cameroun peut ne pas être présent.
Jusqu'au moment où on se parle, ils sont pas présents.
Alors qu'il y a encore 10-15 ans, c'était impensable de voir le Cameroun.
Ça reste le pays quand même symbole. Bien sûr.
La CAN, ça va se passer.
Le Ghana s'est qualifié sur un pénalty imaginaire contre l'Afrique du Sud.
Par exemple.
Oui. La RDC avec le Bénin, ça va être aussi chaud.
Ils sont qualifiés.
Il y a des réserves qui ont été faites de changement.
C'est de la faute de l'arbitre en même temps.
C'est la faute de l'arbitre, mais quand les réserves elles sont prises, on les prend en considération.
Normalement, on ne devrait pas avoir.
On dit que c'est l'arbitre, mais l'administration du club. Comment on peut faire
Je suis d'accord, mais
il n'est pas d'accord.
Attends. Même déjà au niveau amateur, lorsque tu as un changement, l'arbitre y note. Donc le responsable, c'est pas telle sélection ou une autre, c'est l'arbitre. Il a le carnet, lui. C'est lui qui va être sanctionné.
Il y a eu 12 remplacements, monsieur. Je crois que ce n'est plus possible.
si d'un coup, toi, tu demandes un changement et l'arbitre, lui, valide, c'est l'arbitre.
C'est l'arbitre. Il n'a pas tort.
Pour moi, ce n'est pas l'arbitre. Pour moi, c'est
l'arbitre.
C'est le garant du bonheur.
Bien sûr. Mais normalement, il y aurait.
Oui, mais le club, ils savent aussi qu'est-ce qu'ils font. La sélection, ils savent aussi qu'est-ce qu'ils font.
Bien sûr.
Il faut 3 changements.
T'as un staff administratif qui est pour ça.
Ils disent oui, tu rentres, c'est bon.
Ils ont tenté, ça a marché.
Bah oui.
Mais c'est
C'est l'arbitre, il a raison, le coach Tolé.
Non, c'est vrai.
Bah, oui, c'est l'arbitre.
Un jour, c'est arrivé un jour sur un match du Paris Saint-Germain, non? Je sais plus sur quel match c'était. Non, c'est vrai, les gars.
T'es en classe, le garant de l'autorité, c'est ton professeur. C'est la même chose, le garant de l'autorité.
Non, nickel, vraiment, je suis sérieux.
Après,
ça, c'est un autre débat. La CAF, la commission des litiges de la CAF.
Nickel, rien à voir.
Ils vont traiter le dossier.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit billet?
Arrête un peu, mais non.
C'est que la victoire est méritée.
C'est sur le terrain,
la RDC n'a plus participé à un mondial depuis 1974, avec notamment un mémorable 9-0 contre la Yougoslavie. Ça ferait du bien pour la nation.
Ouais, on termine l'émission.
Un peu particulière.
Merci Yacine.
Par rapport à ce problème de prime.
Exactement. A fait un non-match.
Alors qu'ils avaient quand même des individualités.
A fait un non-match.
Qui aurait pu. Bah, le 9-0.
Non, c'est vrai. C'est un non-match.
Ne reflétant aucunement la physionomie du match.
On apprend avec tristesse aussi le décès d'un jeune joueur qui était à la formation de l'OGC Nice. Il avait connu aussi les U13, toutes les classes, on va dire, du centre de formation des Aiglons. Son nom, Azdine Abdallah, voilà, qui malheureusement a été décédé suite à un accident de la route. Sans oublier aussi la mort prématurée de Julie Le Galliard à 31 ans.
La boxeuse.
Qui avait été championne de France. Yacine, c'est bien ça, des poids plumes. Elle n'avait que 31 ans. Elle
c'est
a
en 2015,
été doublement
c'est récent,
plus
hein.
vaccinée et militée pour le vaccin de la Covid-19.
Elle est décédée du Covid.
Elle souffrait plus précisément aussi d'une maladie immunodépressive.
Bilal, tu as une passerelle.
Rapidement.
Tu parles des joueurs par rapport aux accidents de circulation.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez vu une émission qui est passée sur Destin Brisé, sur la chaîne d'équipe. On parlait d'un très très grand joueur
rapidement
malien,
Yacine.
Sidi Kaba, qui était avec Adamkor dans la voiture.
Adamkor, le frère de Saïd.
Oui, le demi-frère de Saïd. Et quand tu vois le joueur, le talent, l'immense talent qu'il avait. Et dans les conditions dans lesquelles il vit aujourd'hui,
c'est juste incroyable.
Et d'ailleurs, rôle des médias, c'est la lutte contre l'oubli.
Et on n'oublie personne, Yacine. Justement, sur l'antenne de Beurre FM.
On pourrait le recevoir.
On espérera. Bien sûr,
c'est
Yacine,
très important.
Vraiment, et ça sera assez intéressant. Et sur l'antenne de Beurre FM, on n'oublie personne, la preuve. Voilà, avec nous tous. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM sont oubliés 22h avec Vanessa et Giovanni. Et on se retrouve dès demain à partir. Non, Vanessa, ce ne sera pas ce soir. On la retrouvera très prochainement. Et on se retrouve, nous, dès demain à partir de 20h. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.